ceux qui sont là pour qu'on se sente. Vous
n'avez pas besoin de crier.
Donc bon, on aborde la seconde partie du séminaire, celle où en fait on va passer de ce long préambule théorique au cours duquel j'ai essayé de construire cette question complexe des rapports entre la pratique et le jugement. Et lors de cette seconde partie, donc j'ai comme prévu invité un certain nombre d'artistes et aujourd'hui Pierre Huyghe. Donc je remercie Pierre énormément d'être là aujourd'hui. Et on va tâcher naturellement de mettre à l'épreuve cette hypothèse et de voir au fond quel sens elle peut prendre, quelle portée elle peut prendre dans le champ artistique contemporain. Alors je me suis décidée, c'est qu'en réalité je suis très contente parce que j'allais dire d'une certaine façon pour moi le travail est fait, maintenant c'est à vous de travailler. Et donc je vais tâcher de parler le moins possible, je pense que j'ai payé mon écho à ce qui est de l'ordre du discours. C'est très important hein, que maintenant ce soit vous qui alimentiez la conversation. Je remercie aussi énormément Marie Muraciol, donc qui est revenue aujourd'hui, qui nous avait aidé la fois dernière à commencer d'aborder l'œuvre de Pierre Huyghe, et qui est revenue un peu pour nous permettre d'animer cette conversation. Alors, il est tout à fait clair que ici, on ne va pas du tout essayer de produire quelque chose de l'ordre comme une interprétation de l'œuvre de Pierre Huyghe, que ce soit Pierre ou que ce soit moi. Hein, c'est-à-dire que là, on est dans le cadre vraiment de la conversation. Hein. C'est Pierre Huyghe qui parle, et j'allais dire, c'est pas l'auteur de l'œuvre de Pierre Huyghe, et on n'est pas en train de faire du commentaire de l'œuvre. Hein. Moi, je m'y sentirais pas autorisée parce que je connais trop mal l'œuvre de Pierre pour avoir une quelconque autorité pour en parler, et lui, évidemment, ça signifie qu'aucun des propos qu'il peut tenir aujourd'hui ne peut être ensuite utilisé comme une espèce d'argument d'interprétation. Voilà, donc la question du séminaire, je la rappelle, puisque finalement on a eu ces longues vacances. Vous vous en souvenez évidemment, c'est est-ce que la pratique artistique, donc en l'occurrence, peut être une instance de jugement? Et je voudrais commencer par tout simplement en introduction, d'une part, dire pourquoi j'ai invité Pierre aujourd'hui, et ensuite pour donner un cadre à cette séance, hein, un cadre problématique, pour dire à l'avance toutes les questions que j'avais envie de lui poser, et puis ensuite, ben, c'est lui qui se lancera, et vous qui le questionnerez. Donc au fond, moi il me semble que le premier artiste auquel j'ai pensé effectivement, lorsque j'ai commencé à réfléchir à ce séminaire, c'était à Pierre Huyghe, parce que je me suis dit que c'était vraiment exactement ce dont j'essayais, son œuvre était exactement ce que j'essayais de penser à partir de Kant, de Baudelaire, de Foucault et de Michaud. Hein. C'est-à-dire que aujourd'hui, la pratique, c'est un peu notre hypothèse de travail, peut effectivement tenter de s'articuler comme instance de jugement à partir du moment, simplement, où elle essaie de travailler sur ce levier de la production que sont les technologies de la mémoire. Et quand je dis qu'elle peut travailler sur ce levier, ça ne veut pas dire forcément travailler avec ce levier. Hein, ce qui veut dire que ce n'est pas parce qu'on travaille avec les nouvelles technologies que pour autant on travaille sur cette espèce de ressort. Hein, voilà. Donc sous-entendu, ce que j'appelle technologie de la mémoire, ça inclut aussi bien, j'allais dire, les techniques pulsionnelles que les techniques du corps, que les techniques psychosociales, hein, que les techniques... j'allais dire de reproduction mécanisée, que les techniques d'automation, hein, et donc c'est un complexe, c'est un système, hein, et donc c'est pas du tout parce que Pierre travaille avec beaucoup avec le cinéma notamment, hein, ou avec des technologies plus avancées d'image que je l'ai invité, c'est parce qu'il me semble que lui, il travaille très précisément sur ce que la dernière fois j'ai appelé l'invention et que j'ai traduit comme une forme de lecture, en disant au fond aujourd'hui le mode principal de l'invention, c'est la lecture. Alors je voudrais vous lire alors j'avais donné comme titre à cette séance un titre qui était reprogrammer le réel, hein, Et je voudrais citer donc deux passages de l'interview avec Marie Muratiol qui a été publiée dans les cahiers du Musée national d'art moderne il y a très peu de temps, 2 mois je crois, à peu près. Donc une première citation qui est « Je travaille, dit Pierre à Marie, à reprogrammer des situations existantes ou à en produire. » Et qui se trouve ainsi développée un petit peu plus loin. Où il reprend une catégorie qui avait été proposée, je crois, par une critique, hein, qui s'appelle le célébratif ou la célébration. Donc, le célébratif est un mode qui, contrairement au mode critique, repose sur la participation. Il s'engage dans l'objet dont il parle. Ce qui est de l'ordre du fait, c'est performatif. Le célébratif est aux antipodes du prétendu naturalisme de la télé-réalité, dont on sait qu'elle n'offre aucun accès à la réalité. Mais il s'insère dans le quotidien, comme lorsque j'essaie d'inscrire une forme dans un calendrier avec Screamside Day ou la série des célébrations commandées à des artistes. Le monde construit est parcouru de ce que j'appelle des scripts, des programmations implicites de nos projections dans l'avenir, de nos images et de nos désirs, en bref, de configuration de nos imaginaires. L'artiste est celui qui peut infiltrer ouvertement ses références plus ou moins lisibles en ouvrant des champs de gratuité, d'hétérogénéité, des champs perméables à des approches singulières qui peuvent s'y déplacer. Je souhaite que mon travail s'intègre de manière imprévisible dans le temps ou dans des situations. Pour cela, mieux vaut affirmer l'artifice narratif et par extension, autoriser les personnes invitées par le hasard des choses ou parce qu'ils le veulent, les spectateurs qui vont reconduire des propositions ou perpétuer un spectacle ou une cérémonie à en reconnaître les conventions. Ce qui permet peut-être de déchiffrer les scripts du quotidien. Et je trouvais dans cette phrase, ce passage de l'interview donné par Pierre Huyghe à Marie Muratiol, finalement un écho extrêmement fidèle à ce qu'on a pu se dire ou essayer de penser le long des 5 séances précédentes. Alors, j'ai donc formulé un certain nombre de questions qui sont au fond des espèces de... qui viennent tout droit de notre problématique et qui s'adressent aussi très très directement à Pierre. Donc je vais vous les donner. Et puis ensuite, je repartirai de la première. Comme ça, vous verrez un peu où ça va, hein, comment j'aimerais que la conversation se déroule, puisqu'on a 3 heures, c'est assez long, et je pense que c'est important qu'on ait une espèce d'ordre de la conversation pour ne pas tomber dans une espèce d'anarchie, hein, et pour qu'on en tire quelque chose. Première question, donc je voulais au fond poser à Pierre la question de la façon dont la condition d'une efficience de la pratique est conditionnée par la sortie de la problématique de l'intériorité, c'est-à-dire la problématique traditionnelle de l'auteur. Et dans ce cadre, je faisais référence notamment à la pièce de Beaubourg que vous avez tous vue et où on voit bien comment, d'emblée dans cette pièce de Beaubourg, la position de l'auteur est révoquée. Je ne suis pas l'auteur de cette pièce. Il y a le choix, donc, à la place de l'auteur, une figure de narrateur, hein, quand on sait bien que le narrateur, c'est le chroniqueur de ce qui arrive, hein, qui n'est pas du tout un auteur. Et j'aimerais bien que Pierre nous parle, à propos de cela, la façon dont cette question de la sortie de la question de l'intériorité s'est posée pour sa génération, qui me semble être une génération absolument fondamentale dans l'histoire de l'art contemporain, pas seulement français, hein, parce qu'il me semble qu'on a une génération là qui a une espèce de... qui a opéré une rupture quand même très importante par rapport à la génération des années 70, hein, voire d'ailleurs des années 80, parce que c'est pas tout à fait la génération des années 80. Hein, voilà. Donc au fond, quel type de décalage il s'agissait de créer par rapport à l'art qui a précédé. Bon. Deuxième question que je voulais poser à Pierre, c'est la question de l'objectivité du médium. Hein, c'est-à-dire au fond, il me semble que ce que fait Pierre Huyghe, hein, c'est qu'il travaille toujours avec des moyens qui mobilise des systèmes de production extrêmement lourds, hein, Hollywood tout simplement. Et au fond, pourquoi ce choix et surtout, hein, donc pourquoi au fond travailler au cœur même du système d'inscription de la réalité et d'autre part, comment maintenir la rigueur de la pratique artistique lorsqu'on se trouve et lorsqu'on se met de façon très risquée au cœur de ce dispositif. C'était la seconde question. La troisième question, elle portait justement sur la relation entre l'objectivité du médium et le collectif. Parce que c'est ce médium, hein, pour autant qu'il est objectif, hein, et pour autant qu'il est, il est objectif parce qu'il est technologique, eh bien, il est collectif. Et on s'aperçoit que cette question du collectif, elle est absolument cruciale dans l'œuvre de Pierre-Louis, puisqu'il y a toujours le public qui est présenté, non pas vraiment représenté, mais plutôt présenté dans les œuvres. Il y a un mot qui revient beaucoup chez Pierre, c'est donc la programmation du réel, hein, ce mot de réel. Et quel rapport entre le réel et le public ? Est-ce que produire du réel, c'est produire des situations nouvelles et des situations collectives nouvelles ? Quatrième question portait sur un geste qu'on a beaucoup commenté ensemble, qui était le geste du détournement. Chez Pierre-Huyghe, on trouve une critique du terme de critique et le choix du mot de célébration. Et il y a tout un développement de terminologique, on va dire, hein, parce que la sémantique, c'est très important pour vous. Enfin, je veux dire, la précision des mots. Cette célébration, elle est aussi représentée sous la forme de la contamination, hein, du suspens, du flottement, etc. Et ce sont des mots que vous employez toujours pour décrire donc ce que vous faites, et moi, ce sont des mots de flottement, pas de contamination, mais d'ailleurs, de suspens et de flottement que j'utilise toujours pour parler de la critique. Hein. Donc il me semble qu'on se retrouve dans cette histoire du suspens et du flottement. Hein. Voilà, j'aimerais bien qu'on parle de détourner, flotter, contaminer. Parce qu'il me semble que là, on est un peu au cœur de l'esprit de l'époque. Hein, je veux dire, cinquième question, c'est la question du plaisir dans la construction de cette œuvre. Hein. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il est très important de penser le jugement hors d'une logique masochiste. J'allais dire masochiste chrétienne, hein, quitte à être un peu violente. Il me semble que ce terme de célébration en appelle à cette idée de plaisir, et j'aimerais bien que Pierre nous parle de ça. Et sans parler du fait que moi, il me semble qu'il fait toujours des œuvres qui sont très jouissives, hein, si je puis dire, parce qu'elles sont très spectaculaires. Et moi, c'est ce qui me plaît, pour dire les choses simplement. Hein. Et donc, au fond, est-ce que c'est important pour lui cette affaire de plaisir ou pas ? Et en quoi le plaisir fait sens dans la pratique aussi ? Ça me paraît important. Et sixième question, qui est la question de l'écriture et de la réécriture. Hein. C'est-à-dire qu'au fond, on a abouti la fois dernière à définir l'invention, pas seulement artistique, mais l'invention de façon plus générale comme une opération de découverte, c'est-à-dire en fait de réinscription de traces. Et évidemment, toute l'œuvre de Pierre-Huyghe est absolument basée, hein, sur des opérations de réinscription de traces, de médium en médium. Traduction d'un mode de représentation dans un autre mode de représentation. Traduction qui, évidemment, se détache complètement de ce qu'on peut voir aujourd'hui, qui est une manière de rejouer souvent ce qu'on appelait autrefois la correspondance des arts. Donc, c'est pas du tout ça, puisqu'il s'agit au contraire, si je puis dire, de traverser différentes modalités de la représentation pour faire dériver la représentation, précisément, pour la faire flotter comme représentation et pour la donner à expérimenter. Voilà. Et ma question, c'était de savoir comment est-ce qu'il espère pouvoir créer de l'accident à la faveur de cette dérive de la représentation. Et est-ce que la pratique, c'est ça ? Et au fond, c'est quoi ça ? Voilà. Donc ça, ce sont un peu les questions que j'avais envie de poser. Voilà. Et moi, je propose à Pierre peut-être de reprendre la première, et puis après, on va dériver. Voilà. Donc c'était la question sur l'intériorité et l'auteur.
Et l'auteur, oui. Voilà. Et la position du chroniqueur de ce qui arrive. Voilà. Enfin, c'est aussi important.
Exactement.
Oui, ça, en fait, ça aussi, c'est une histoire, parce que ça n'est pas... C'est pas une position comme ça qui est décidée... En blanc, en disant tiens, je supprime cette question de l'auteur. C'est juste qu'effectivement, je crois que ça va comprendre la pratique immédiatement. J'ai toujours besoin de dériver, d'être distrait, de comprendre l'ensemble des paramètres qui forment une situation pour pouvoir la comprendre. Je crois que cette question de l'auteur, elle vient aussi à un moment donné de comprendre qu'il y a elle vient très probablement de la discussion qu'il y a avec d'autres et de comprendre que finalement le côté monolithique, l'espèce de pratique monomaniaque n'est plus à un moment donné adéquate avec le présent. Que finalement ça passe par une série de renégociations avec les autres, avec le monde, et je crois que du coup devient poreuse cette question de l'auteur avec son authenticité sur son siège, voilà, avec son authenticité, etc. Il y a aussi évidemment et indirectement la question de la signature qui vient évidemment très vite derrière. On parlait tout à l'heure de cette idée qu'une situation finalement c'était un ensemble de relations, un ensemble d'éléments, comme je l'écrivais ma fascination pour ces systèmes en biologie, quoi. Voilà, l'arbre, la photosynthèse, la petite branche, etc. Donc on a à un moment donné, on a comme ça une sorte de cycle, on a quelque chose qui est, je dis, organique, effectivement. Donc c'est très très difficile de se penser comme étant dans le monde, mais en même temps complètement séparé de ce monde. Donc je pense que la question aussi de l'auteur, elle devient poreuse, ou elle devient, on peut commencer à la... À la elle peut commencer à se fragiliser à partir de là. Il ne s'agit pas en éliminant cette question de l'auteur, il ne s'agit pas de dire on élimine la singularité. Au contraire, il s'agit d'éliminer, de continuer à discuter. Voilà, de continuer à discuter avec d'autres et avec la situation. Après, il y a aussi cette question de l'intériorité. Je crois qu'elle est aussi tout à fait liée à ce que je disais, c'est que voilà, c'est pas tellement en soi que c'est pas un mouvement interne. Il y a pas la réflexion, elle n'est pas agressée par le monde, elle est au monde, je vois rarement mon travail comme un miroir, et je me regarderai dedans. Je le vois comme un miroir qui serait incliné. Donc, à travers ce miroir, je vois le pot de... je vois le monde. Voilà. C'est quelque chose que je n'arrive même pas à penser, en fait, cette question de l'intériorité. En fait, j'ai du mal à en parler parce que c'est quelque chose que je ne pense pas. Je ne me pense pas... On peut dériver sur des questions de psychanalyse, on peut dériver sur des questions même de c'est quelque chose que je ne prends pas en compte. Je me rends poreux au monde. S'il y a singularité, elle est dans les autres, en fait. Voilà, je dirais dans le dialogue avec les autres. Elle est dans la circulation. Dans une circulation. Voilà, après il y a toute l'histoire évidemment de la... Je crois pas que c'est une position... Il y a évidemment une dimension peut-être politique de ça, mais je crois que il y a quelque chose qui est en amont de cette position. Cette question de dire on élimine la position de l'auteur ou du jeu ou de la signature, c'est pas tellement... Évidemment, c'est-à-dire que je pense qu'effectivement une pratique collective est une pratique qui est du long de la discussion, de la conversation, est une pratique qui élimine ce rapport-là, enfin en tout cas une forme de critique de la modernité qui était une sorte de côté monolithique comme ça, et qu'à un moment donné c'est ce côté pyramidal des choses, on voit qu'évidemment il est problématique, mais je crois que c'est pas vraiment ça, je crois qu'aujourd'hui, ce serait une adéquation avec le présent. En fait. Il me semble qu'il est difficile de tenir une position qui n'intègre pas un amont et un aval de soi. Quoi.
Non, mais ça
qu'il y a un amont et un aval de soi, ça me paraît intenable comme position.
Mais ça, je crois que
c'est... Mais après, peut-être que c'est aussi... Bon, c'est toujours difficile d'expliquer ça, parce que peut-être qu'effectivement, cette notion de groupe, elle vient de l'école, quand on est dans la cour, mais elle vient du groupe de rock, quand on joue à l'école, elle vient du travail. On a toujours ce rapport. Et effectivement, à un moment donné, il y a des gens qui sont plus ou moins sensibles à ces formes de pratique, et à un moment donné, pour moi, c'est ça. Je me vois, je me vois là, je me vois, pas non, pas là, hein. Juste là, voilà, c'est ça. C'est
mais,
et
ouais.
Je ne peux, je construis donc ma relation au monde à travers cet ensemble d'éléments.
Et alors justement,
parce que c'est ça, parce que c'est finalement peut-être l'ensemble des relations entre ces points que je privilégie. Donc on parlait de système, toujours pareil, plutôt que les points, en fait. C'est pas tellement les points qui m'intéressent, mais c'est cet ensemble de relations qui va évidemment, où chaque point est forcément très important. Hein. Il ne s'agit pas que de faire disparaître cet auteur.
Mais justement, il me semble que c'est peut-être la grosse différence entre, j'allais dire,
un nouveau roman,
ma génération et votre génération. C'est qu'en fait, dans ma génération, il y avait vraiment eu le projet de détruire ces positions, j'allais dire d'auteur, enfin, finalement. Tandis que dans la vôtre, et ça j'aimerais bien peut-être qu'on revienne sur la dimension plus historique, hein, générationnelle, parce que je pense que c'est intéressant d'entendre ce que vous pouvez en dire. Il y a eu au contraire c'était pas une question qui se posait dans la frontalité ou dans la violence, ou dans les termes de la critique. Hein. Ça se posait dans d'autres. Voilà, c'était. Voilà. Et ça, j'aimerais bien que vous en parliez.
Oui, non, c'est vrai, effectivement. Peut-être qu'il n'y a pas eu la rupture, il n'y a pas eu le même système de rupture que peut-être la génération d'avant a eu. On était plus dans le faire avec. Et je pense qu'immédiatement, quand on est sur cette histoire de faire avec, je pense à De Certeau, évidemment, mais à un moment de crise, il faut se serrer les coudes, quoi. Et donc peut-être qu'effectivement, il y a d'un côté ça, et de l'autre côté, essayer d'éviter des systèmes rigides. C'est un peu la même chose, hein, d'une certaine manière. On dit, il y a l'auteur, et après on dit, non, il n'y a plus d'auteur. Mais finalement, à la fin, on a produit une position forte, je, moi, l'auteur et la signature. Et puis de l'autre côté, je fais disparaître l'auteur. Je signe la disparition de l'auteur. D'une autre manière, je re-signe. Le nouveau roman n'a pas complètement fait ça, parce qu'on a dit qu'il y avait une... Alors qu'en fait, pas vraiment. C'est un déplacement de cette position. Mais donc, il ne s'agit pas en fait de produire une sorte de signer le non-auteur. On se retrouve encore une fois dans une sorte de position, pas dominante, mais dans une sorte de modèle affirmé
d'autorité.
Voilà, pardon. Donc en fait, là, il s'agit pour moi, même quand on parle de groupe, quand on parle de collectif, on pourrait même faire le même mouvement. On pourrait dire, il y a eu à un moment donné la nécessité, on parle des années 60, enfin, historiquement ça va très loin, ça va dada,
mais
tout plus avant-garde. Mais on va dire les années 60, 70, forcément, le collectif a pris une dimension forte, elle était active, elle était aussi liée à une action politique. Nécessité d'être ensemble, de se confronter à quelque chose ensemble. Et puis c'est devenu un petit peu plus poreux. Dans les années 80, chacun s'est replié sur lui-même, il y a une sorte de cynisme. Et c'est revenu avec peut-être des systèmes de crise. Voilà. Mais il y a eu à un moment donné des groupes d'artistes, c'est surréaliste, c'est dadaïste, mais ça encore c'est des mouvements, c'est pas tout à fait pareil, mais on va dire General ID.
La BNPT avant.
Voilà, d'un coup, le groupe matériel en femme pour les architectes fous. Voilà, bon. Bref, il y a eu une série de. Mais finalement, à la fin, ça revient au même, que ce soit une personne, ou même Gilbert et George, ou Fishley and Weiss, si on prend des couples. Mais ça reproduit quand même
une position.
Et ben, c'est un label, ça s'appelle le label, je sais pas quoi, ta-ta-ta. Et Rolling Stone, quoi. Ça. Donc, à un moment donné, peut-être que là, d'un côté, il y a non pas être aussi intransigeant sur cette position de l'auteur, mais il y a aussi cette idée que même le groupe, ce qui est intéressant, c'est de travailler avec deux personnes, et puis après de disparaître, de réapparaître plus loin, de faire une chose seule, d'affirmer une signature, de la faire disparaître. Voilà, c'est plutôt un jeu. Là, on peut penser, on parlait tout à l'heure de cette chose que je répète, c'est en boucle, mais de cette position, enfin de cette phrase de Lyotard qui parle du narrateur, du narré, voilà, et du narrateur. Donc il parle des instances, voilà, c'est ce mot qui me paraît important, cette instance du récit, mais on pourrait en fait quelque part l'appliquer à la position. est-ce qu'on a envie de travailler, de continuer à converser à deux, à trois, pour un moment, puis de faire autre chose. Voilà. En fait, c'est d'éviter une autorité sur une forme. En gros. En gros, je dirais. Donc il n'y a plus un groupe comme dans les années 70. Il y a des rencontres ponctuelles, des occasions qui se donnent. Elles font sens, donc on est en sympathie. Mais il n'y a rien qui est figé et qui dit ça, c'est ça perdure et ça sera comme ça. Il n'y a pas une fixité d'un modèle. Il y a une renégociation constante, permanente, comme ce qui se passe partout, tout ce qui est naturel ou ce qui est même non naturel, artificiel aujourd'hui. Mais on va dire il y a une voilà, il y a quelque chose qui doit se constamment, pour moi, se renégocier. Donc cette position aussi, elle se renégocie.
Alors, moi, j'aurais une question sur la question sur le label,
je sais
évidemment.
Pas si c'est très clair par rapport à ça, mais.
Et sur le problème de la labellisation de l'artiste, parce que je pense, ou du nom de l'artiste, parce que je pense que dans le système de production contemporain, la labellisation, c'est difficile d'y échapper, je veux dire, économiquement. Bon. Mais je pense que ce n'est pas forcément, disons, tout à fait notre propos, en réalité. Hein. Donc, je ne vais pas la poser, cette question. voilà. Non, mais c'est vrai. Donc, je pense qu'on pourrait peut-être s'arrêter là, et puis on renvoie ce que vous avez dit à l'ensemble, parce que si on passe 2 heures à parler, je pense qu'après, il n'y aura plus du tout de questions. Et donc, je suis sûre qu'il va y avoir déjà des interventions sur ce que vous avez.
Et après, il y avait cette idée que le narrateur. Non, mais je relis la question là, du coup. Et je vois que, effectivement, la position de l'auteur de la pièce, et le choix du substitut du narrateur. Voilà, oui, effectivement, il y a le chroniqueur.
Oui.
Ce qui arrive. Et ça, peut-être, cette dimension du présent, il faut être après. C'est une chose en soi qui n'est pas évoquée, donc ce n'est pas la peine. Mais,
si.
Mais effectivement, oui, c'est ça. C'est...
Oui, non, c'est vrai que
j'ai. C'est pas forcément une tentative. C'est pas une tentative de... Il ne s'agit pas d'éliminer une singularité, forcément, je suis dedans. Donc, dans cette situation, dans cette pièce, enfin, dans cette situation d'être. Je suis, en tant qu'artiste, commissionné pour faire un travail. Donc, il faut bien que. Je deviens l'artiste, on va dire. Voilà. C'est ça, je deviens l'artiste et cet artiste est chroniqueur. Ou alors, peut-être, je suis chroniqueur et je chronique. Et je chronique une situation dans laquelle il y a un artiste, c'est-à-dire que c'est moi. Mais c'est pas tellement, c'est pas un moi intérieur, c'est un moi.
C'est pour ça qu'il y a une marionnette dans la pièce de Beaubourg.
Bien sûr.
Marionnette Pierre Wig. As artiste,
voilà. Voilà. C'est ça. C'est pas. Parce que forcément, la question qui est arrivée, c'est est-ce que c'est un autoportrait ? Non, c'est l'autoportrait d'une. C'est le portrait d'une situation. Dans lequel, effectivement, il y a un ensemble de paramètres, dont celui-là, il s'appelle artiste. Donc, effectivement, oui, je prends là une position d'une sorte de chroniqueur d'une situation qui arrive, quelque chose qui est en train d'arriver. Non, je voulais juste préciser ça.
Merci. Manon, c'est OK. Je rappelle qu'il faut dire le nom avant de parler. Je vais peut-être déborder sur une question plus générale. En fait, en vous entendant, je pense à quelque chose, un détail structurel de la pièce à Beaubourg. J'ai tout de suite pensé à la marionnette quand on parlait de décalage par rapport à l'auteur, c'est-à-dire comment les années 70, il y avait une destruction qui sauvegardait une idée ingénue et non construite de l'auteur, parce que voilà, je signe la destruction de la signature. Ce qui fait, finalement, ça se révèle comme une sauvegarde de la signature, une stratégie de protection, qui a été totalement renversée pendant les années 80 et le cynisme qu'on a mentionné, et qu'aujourd'hui on a repris en quelque sorte par la refictionalisation des stratégies subjectives et autoriales. Et ce qui m'intrigue dans votre pièce, c'est que en fait, oui, il y a un désir de description non interventionniste ou de laisser entrer les choses dans l'œuvre, quelque chose comme ça, tout en reconnaissant qu'il s'agit d'un langage par le biais du petit théâtre de marionnettes. Mais en même temps, je me demande, et c'est peut-être que je n'ai pas lu assez sur la pièce, quelle était l'intention d'origine, parce que finalement la pièce, en fait, on répond à une commande en faisant un portrait de la commande. Mm-hmm. C'est-à-dire on répond
de la situation.
La situation de commande.
Voilà, situation de commande. Voilà, ce qui est autour même. Voilà.
Exactement. Mm-hmm. Et en quelque chose, ça atteste l'impossibilité d'un contenu.
De répondre, oui.
L'impossibilité en quelque sorte de faire sortir le signifié du contexte de l'œuvre d'art. Donc, comment vous voyez ça?
C'est
peut-être général, peut-être.
Elle peut aussi être. Non, c'est une question. Et effectivement, il y a besoin d'avoir un petit historique, micro-historique, justement, pour comprendre ça. Oui. Il y a une commande, on me demande de faire quelque chose sur un lieu qui est assez marqué, parce que c'est quand même le seul bâtiment de Le Corbusier aux États-Unis, c'est à Harvard, à l'université. Donc, c'est chargé. Hein. Et même si ça ne l'était pas, je réponds. Quand on me demande de faire une exposition dans ma propre galerie ou un musée me demande, c'est une commande en fait. Commande assez libre, c'est une commande. Et effectivement, aujourd'hui, j'ai peut-être pas. Oui, il y a donc, et je tente de trouver quelque chose à faire, donc de répondre à la question. Et au bout d'un moment, je n'arrive pas à répondre à la question. Et effectivement, quand vous dites, oui, effectivement, je suis d'accord avec vous en partie, quand on n'arrive pas à donner forme, c'est ça le truc, c'est que quand on n'arrive pas à donner forme au présent, quand on a l'incapacité de former le présent, on tombe dans une sorte de morale. Donc moi, effectivement, je suis confronté à ça, je n'arrive pas à faire, et je réalise que finalement, ma réponse, ou ce que j'ai envie de produire, c'est quelque chose qui n'a plus à... En fait, c'est comme si j'élargissais le champ de la commande, hein, donc je reprogramme, peut-être c'est un mot un peu lourd, mais j'ouvre, en fait, le spectre, et je dis, ah oui, voilà, je regarde... j'essaie de comprendre les conditions dans lesquelles j'ai été amené et pourquoi j'ai une difficulté par rapport à cet objet. Hein? Et donc, m'incluant, tout d'un coup, je trouve, j'ai le sentiment, peut-être qu'on peut être en désaccord, hein, j'ai le sentiment que j'ai une image, je donne une image du présent qui est finalement plus précise. Voilà. Donc finalement, je produis une œuvre, hein. elle est produite. Il y a même, elle a, c'est même ça, c'est, on pourrait dire, c'est presque l'enregistrement, le document de l'événement qui s'est produit à Harvard, qui est donc une pièce de théâtre. Donc il y a un événement public, les gens viennent, voilà, il y a un événement public, il est dans un contexte. Donc je remplis mon contrat, c'était ça la question, de donner forme au présent. C'est juste que j'ai essayé de prendre en compte, d'ouvrir en fait ces œillères, de pas être sûr, de pas être simplement dans un échange, court, étroit, entre ce qui m'est demandé et ma réponse. Voilà.
Oui, mais... en fait, il y a une double dimension dans tout ça, parce que d'un côté, il y a par exemple, je trouve très intéressant d'expliquer la pertinence de l'œuvre et son signifié par rapport, c'est-à-dire son signifié en tant que réponse à une commande institutionnelle, parce que, disons dans le titre, on essaye de reprendre un vieux problème qui est constamment enseveli précisément par ce système de commande. On dit oui, donc l'institution va réaliser une commande et elle va montrer sa bonhomie, elle va montrer ça, etc. Alors que quand on répond à la commande et du coup il y a des problèmes, disons, budgétaires, on réplique c'est pas le temps de rêver. Écoutez, quand même, on n'a pas le budget pour ça. Et à ce moment-là, vous répondez en disant, bah oui, c'est la question qui est à l'origine de ce lieu même. Le Corbusier, il a dû faire face à la mouconnerie, à la rigidité. Donc, écoutez, je ne peux que reprendre le rôle du Corbusier, etc. etc. Donc ça, disons, ça remplit l'œuvre d'un sens fort.
Donc il y a une dimension d'échec que j'accepte. Hein.
Mais je pense que vous l'acceptez. Et...
Je l'accepte complètement, je la mets en scène.
Avec succès. Avec,
je la mets en scène, voilà, c'est ça. Voilà.
Il y a un succès dans cette reconnaissance. Donc, là, je pense que c'est la dimension réussie. Il y a une dimension quand même qui est une acceptation d'un échec, je pense peut-être plus profond, mm-hmm. par rapport à le statut de l'auteur. Au statut de l'auteur, et c'est celui de... l'impossibilité de sortir de l'autoréférentialité. C'est-à-dire,
oui, c'est vrai que ça met
en scène. L'œuvre revient à elle-même et on dit, comment est-ce qu'on décrit le présent en décrivant la description? Ça veut dire qu'il n'y a pas de présent?
Non, je comprends très bien. Il y a un moment donné, il y a quelque chose qui brèche, tiens, effectivement, dans ce système, que je ne pointe pas, que je ne critique pas. C'est vrai que je mets en scène, mais en même temps, j'ai envie que les choses soient... Comment dire ? D'un côté, je suis dans une université, ça ne me dérange pas, que ce soit une petite pièce de théâtre, d'être démonstratif. J'instrumentalise le démonstratif. C'est presque comme si j'instrumentalisais le mode critique. Hein ? Mais je ne réponds pas encore à
la question.
C'est juste pour... Pardon, là, j'étais parti. Non, c'est justement, je crois, je vois très très bien où tout ce que tu pointes, c'est en disant, puisque tu n'arrives pas à donner forme au présent, et finalement, ta façon de donner forme au présent, c'est de décrire ton impossibilité à donner forme au présent. Et finalement on ne le modifie pas. Non, je crois pas. En fait, je crois, enfin, je comprends très bien ça, et effectivement, c'est le risque de la mise en, d'injecter dans la situation des paramètres fictionnels ou potentiels de cette situation, je suis d'accord, effectivement, donc il y a quelque part une réinsertion de la condition de cette situation dans cette situation, elle est mise en spectacle dans cette situation même, mais ce que je pense c'est que en mettant en scène ces conditions du présent, je crois qu'on le produit, on en reproduit, on en donne l'image, on en fait la représentation, et toute forme sociale est une forme qui passe à travers des formes de représentation. Notre discussion, notre rapport ici, cet endroit, la forme que prend les tables, toute forme est une forme qui est donc scénarisée, mise en scène. Et donc je prends ça comme une... Voilà, qu'est-ce qu'on entend? Voilà. Hein, donc, moi, je pense que cette mise en scène du présent, dans le présent, je crois qu'elle l'active. Je ne crois pas qu'elle... Alors après, tu peux me dire, oui, mais qu'est-ce qu'elle propose en dehors de l'activer? En dehors de l'activer, ce qu'elle propose, c'est une sorte de pièce de théâtre, comme si tu allais au théâtre, tu voyais la situation qui se passe. Voilà, ça, elle produit aussi une forme, elle produit une pièce de théâtre, elle produit un théâtre, elle produit une situation, elle produit un film, elle produit une exposition. Donc elle produit, quoi, elle produit beaucoup, c'est pas immatériel, voilà.
Non, mais
elle induit un commentaire. Elle induit un commentaire sur le qui fait un petit choc à Harvard. Donc elle induit dans les journaux, sur qu'est-ce que cette institution, qu'est-ce que ce lieu, etc. Et elle n'est pas non plus une critique institutionnelle. Elle se joue de ça aussi.
C'est un aveu en quelque sorte.
Et pour moi, elle s'active toujours parce que par exemple, puisque c'est une histoire de commande, quand quelqu'un me dit. Ah, on a envie de montrer cette pièce, par exemple, et ils peuvent montrer cette pièce, ils l'ont même achetée. Ils la montrent, ils sont en train de la montrer en ce moment. Pour moi, j'ai presque failli induire ça. Après, je me suis dit, bon, c'est bon, chacun le lira comme il voudra. Mais effectivement, en m'invitant à montrer cette pièce à Beaubourg, je reproduis, la chose se reproduit infiniment. Voilà, à chaque fois que cette pièce est montrée, elle dit. Voilà, Pierre est invité à exposer à Beaubourg dans ce bâtiment conçu par ta, et il est dans cette pièce, on lui a donné tant de mètres carrés, et voilà. Donc tout se rejoue d'une certaine manière. Il se réactive. Bon, c'est un truc un petit peu brèche, tiens.
Non, mais juste pour finir avec ça, ce n'est pas qu'il y ait une impossibilité à parler du présent, parce que
non, mais
ça se fait dans d'autres œuvres, par exemple dans Streamside Knowles, vraiment, on envisage les stratégies de construction du présent de manière directe.
Disons qu'il y a un rapport à l'événement, donc quelque chose a lieu, et en même temps qu'il a lieu, il est aussi mis en scène, il est aussi représenté. Il y a un rapport entre la représentation et l'événement, et le commentaire et l'événement, et à un moment donné, ces choses deviennent poreuses. J'ai besoin qu'elles soient poreuses, que la représentation devienne soit activable. Mais il faut que...
Elle refabrique l'événement.
Elle refabrique l'événement. Elle refabrique l'événement. Il y a un déplacement, évidemment.
Oui, bonjour. C'est du métier de Pierre. Par rapport à la question de l'auteur, c'est vrai que c'est assez compliqué de comprendre comment ça fonctionne, parce que vous dites disparition de l'auteur, bon, et puis vous êtes peut-être un des 3, 4, 5 plus grands artistes en ce moment. Donc c'est un peu ambigu quand même. C'est-à-dire, vous seriez un anonyme, un artiste amateur, je comprendrais. Enfin, ça me semble bizarre. Hein. Mais je voudrais dire, moi je me demande si c'est pas une question de distance simplement. C'est-à-dire, par exemple, si on prend un autre exemple d'artiste qui est très connu.
J'ai dit disparition de l'auteur, j'ai dit autre chose hein, depuis tout à l'heure. J'ai dit que c'était un déplacement.
D'accord.
J'ai pas dit disparition, j'ai dit disparition de l'auteur, ça a été une signature. Non, il me semble que j'ai dit ça. Hein.
Et justement, cette histoire du déplacement, c'est la notion d'auteur.
J'ai signé la disparition de l'auteur et justement, en désaccord avec ça, parce que ça reproduisait une autorité.
D'accord. Enfin, vous êtes quand même une autorité.
Oui.
D'accord.
Non, j'ai pas de problème pour le dire.
Non, mais c'est bien, parce que sinon, on sait plus. J'ai l'impression qu'il y a un déplacement qui est intéressant. Enfin, cette mise à distance de l'idée de l'auteur, justement en jouant les outils de la représentation, quoi. Si on prend un autre artiste comme ça, qu'on voit beaucoup, comme Hirschhorn, lui, il est très près. On a l'impression qu'il est très près de l'identité de l'auteur. Il prend tout à corps, quoi. Il dit tout de suite, le monde, c'est ma douleur, quoi. Parce que vous dites pas du tout, vous dites... Bon, ça se passe comme ça, quoi.
Ouais.
Ça, je trouve que c'est peut-être plus...
C'est plus flou, moi.
Non, j'ai pas dit ça. Non. Non, on pourrait dire flou, manipulateur, non. La question n'est pas là, mais plus distancié, peut-être.
Oui,
je
suis d'accord.
Ou en tout
c'est
cas...
On est bien d'accord. C'est une histoire de distance. C'est un écart.
C'est un écart.
C'est pour produire un écart. Mais cette chose-là, c'est parce que... Je pense que si on parle d'une autorité... ou de l'auteur, ou de la signature d'une... Parce que je suis bien d'accord avec une chose, c'est beaucoup, beaucoup de pratiques collectives sont des pratiques qui sont à la fin signées. Elles sont signées par celui qui l'a initiée. Et donc, j'ai une absolue conscience de la perversité de signer du collectif. Qu'un auteur, finalement, il attrape un groupe, il leur fait faire quelque chose, et après, il dit, j'ai fait faire au groupe cette chose-là. Donc, on signe le collectif. Je suis tout à fait d'accord que c'est extrêmement pervers et cynique. Je parlais juste que c'est comme une sorte de... Cette question de l'auteur, aujourd'hui, elle est peut-être jouée. Peut-être que on peut en faire des variations. Hein, c'est peut-être ça qui est intéressant. C'est plutôt que de se dire qu'il y a... il n'y aurait pas un an, 3-4 positions fixes, mais peut-être qu'on peut juste rendre poreuses ces notions. Voilà. Et je pense que plus on joue, en fait, c'est une histoire de jeu à la fin. Voilà. Donc ça, je voulais en parler à la fin, mais effectivement, pour moi, c'est une histoire de jeu, de jouer, de continuer à jouer.
Et juste pour ajouter une dernière chose, je crois que c'est ce qui différencie ton travail de celui d'un Hirschhorn, par exemple. C'est
qu'il y a pas de
fixité de cette position qui m'indique et qui est claire. Parce que chez Pierre, ça peut bouger et en plus ça a évolué, puisqu'on avait fait le parallèle l'autre jour entre The Third Memory et That's Not a Time for Dreaming, la façon dont tu plaçais les choses qui avaient vraiment beaucoup changé. Et où tu les situais beaucoup moins, tu laissais beaucoup plus de liberté.
Oui.
À cette distance, voilà.
Il y a toujours pas cet écart de distance, évidemment, voilà, on parle d'une autre distance, on parle d'une distance différente. Voilà. Mais effectivement, il faut le lâcher, mais il faut quand même pas complètement lâcher, hein, sinon après on est dans le...
D'accord.
Dans le...
<l'ambiance.
rire>
Florent, on a... En fait, je pense qu'on va... pas passer forcément la séance sur cette question, mais je me disais qu'on gagnerait peut-être à préciser un petit peu ces affaires d'intériorité et d'auteur, parce qu'il y a différents niveaux, différents endroits où on peut prendre la question. Parce que là, notamment avec la question de Pierre Dumontier, on était du côté de la réception, de la signature, alors que Catherine lançait la problématique de la pratique. Et de ce point de vue-là, déjà, je pense que c'est pas... Même pour Hirschhorn, en fait, c'est pas exactement le même... Ça, c'est un premier point. Et un deuxième point, c'est le fait que, certes, cet enjeu autour de l'intériorité, enfin, cet enjeu historique a varié historiquement assez fortement, mais je suis pas sûr qu'on gagne à dire simplement qu'on la liquide ou qu'on la déplace, parce que peut-être qu'on devrait dire que, d'une certaine façon, il s'agit plutôt de... au niveau de la pratique, de se traiter soi-même comme un contenant. C'est-à-dire que, de fait, on est au carrefour d'un certain nombre de circuits hétérogènes. Cette affaire du miroir, en fait, dont vous parliez, je pense que c'est ça. C'est-à-dire que faire l'impasse sur l'intériorité, à mon avis, c'est manquer la qualification ou la requalification de ce qui de l'opération, en fait. Et que cette affaire de contenant et de circuit est peut-être une autre façon d'en parler et qui permet de faire de faire un lien critique, en fait. Voilà.
Non, il est clair que moi j'ai repris ce terme d'intériorité parce que c'est celui qui est employé par Foucault dans une problématique qui est effectivement la problématique des luttes d'individuation contre certaines formes d'individuation qui sont dominées par un motif que j'ai exprès référé comme ça assez brutalement au christianisme, mais c'est bien ça dont parle Foucault. Ensuite, c'est vrai que c'est un terme qui maintenant, d'une certaine façon, il est historiquement, on pourrait presque s'en passer. Enfin, d'ailleurs, je dis ça, mais je ne le pense pas.
Non, mais...
Je pense que... voilà.
Ce que je suppose, en fait, c'est qu'on est pris pour des intériorités, notamment dans le cadre d'une commande. En fait. On est sollicité en tant qu'intériorité, et la réponse consiste à dire non, je suis qu'un contenant. Moi, j'ai l'impression que le déplacement se fait là-dessus, et que... Il y a quelque chose d'un peu judoka, quoi, là-dedans. Mmh. Oui, oui, j'accepte, en fait, la prémisse, mais je refuse la conclusion, quoi.
Mmh. Oui, mais ça, c'est la reprogrammation, effectivement. Mmh. On est d'accord, c'est un processus, et parce qu'il introduit une dimension... Enfin, il y a un jeu possible qui est assez stimulant. Après, la conclusion, elle n'est peut-être pas... Peut-être que c'est la tension qui est finalement relativement intéressante. Mais pour revenir sur ce que tu dis, peut-être que moi, effectivement, j'associe aussi à des mots, enfin, j'ai ma définition, quoi, effectivement, et intériorité, je l'ai peut-être souvent associé à des choses que j'ai peut-être vues, et je l'ai peut-être, voilà, à quelque chose qui était du moi-je, quoi. C'est peut-être ça, peut-être que ma réaction, elle a été, j'ai vu tellement à un moment donné, étudiant ou même jeune artiste, quand je voyais tous ces trucs, je me filme moi-même, je suis tout nu sous ma douche, et je me filme rien, mon petit univers, mon petit monde, mon petit machin, et à un moment donné, j'ai une sorte de comme ça, d'écœurement, et j'avais envie de que cette chose s'ouvre. Mais je suis bien d'accord, j'ai dit singularité. Peut-être que j'ai remplacé ce mot par celui-là, tu vois. Peut-être, effectivement. Je crois pas qu'il faut se dissoudre, hein. C'est pas ce que j'ai dit, hein. J'ai pas dit qu'il fallait dissoudre. Hein.
Mais en dehors de l'opposition intériorité ou contenant,
c'est la même chose en réalité. Hein. Il n'y a aucune différence entre intériorité et contenant. Strictement aucune différence. C'est simplement une question de point de vue. C'est-à-dire quand tu dis intériorité, tu es à l'intérieur du contenant, et quand tu dis contenant, tu es à l'extérieur. Tout. La vraie question, c'est la disposition, pour moi. Ce que je veux dire, et d'ailleurs, tout ce processus de devenir installation va dans ce sens-là. Bon. C'est-à-dire que si tu regardes une partie d'échecs, tu es en train de jouer aux échecs, et en face de toi, tu as un autre type qui est en train de jouer aux échecs. Ce que tu regardes, tu peux appeler ça une intériorité, si tu veux. Ou un contenant, si tu veux, ça n'a strictement aucune importance. Par contre, c'est un dispositif. C'est-à-dire que, et donc, ça n'a plus de sens intérieur-extérieur. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de différence entre son jeu et le tien. Et en plus, ces jeux peuvent être extrêmement mêlés. C'est-à-dire que tu ne peux même pas distinguer son jeu et le tien. Il y a une différence, mais tu ne peux pas les distinguer. C'est-à-dire qu'ils sont pris l'un... C'est en ce sens-là que l'individuation m'intéresse, moi. Parce que le concept d'individuation, pas de ce Foucault, mais de Simondon... C'est le seul, à ma connaissance, c'est le seul concept qui permette de penser ça. C'est-à-dire que quand il dit individuation psychique collective, parce que moi, quand je vous écoutais, moi je traduisais tout ça en langage simondonien. Par exemple, chez Simondon, la singularité ne peut pas être la singularité du jeu, simplement. Elle est forcément la singularité du jeu en tant que ce jeu potentialise une singularité de l'espace dans lequel il se trouve. Voilà. Et donc, c'est les circuits. Mais à partir de là, le problème n'est plus ni contenant, ni contenu. On pourrait dire la figure au jeu d'échecs, tu vois, par exemple. On pourrait dire c'est la figure du jeu. Bon. Et c'est intéressant, la figure. Je ne prends pas au sens de Lyotard, simplement. Mais la figure au sens où un visage, on appelle ça aussi une figure. Bon. Qu'est-ce que c'est qui est intéressant dans un visage? C'est qu'il n'y a rien derrière. C'est complètement plat. Bon. Enfin, c'est pas plat, il y a des reliefs, mais on fantasme que derrière il y a une bonne intention, une mauvaise intention, de la gentillesse, de la méchanceté, tout ce qu'on veut. Mais en fait, c'est sur la figure même. Et cette figure, elle se figure face à d'autres figures, et la figure, les autres figures, c'est pas simplement notre visage, c'est la configuration, là, par exemple, qui nous fait des sales gueules, des néons, etc. Et je pense que, enfin, moi, c'est comme ça que je regarde votre travail. Tu vois?
Non, mais je crois que c'est précisément dans l'ambiguïté que je m'en.
Pardon.
Je veux juste expliquer pourquoi je parlais. Donc c'était par rapport à l'idée suggérée par Catherine de contenant, de chroniqueur, pardon. À savoir qu'il me semble que dans ce que tu disais, il y avait quelque chose autour de il m'arrive quelque chose. Et c'est ça dont je me fais le narrateur. La question n'est pas que ce soit à moi que ça arrive, mais il se trouve que j'en suis un circuit. Voilà, voilà. Et il arrive en fait que je sois traversé par des choses. Voilà, exactement. Et voilà, et simplement.
Ça, tu parles d'un ensemble de relations.
Voilà.
On va appeler ça un ensemble. La métaphore du jeu d'échecs, elle est assez claire.
C'est ça. Mais à la différence, peut-être, c'est que je suis traversé malgré tout par quelque chose auquel je ne m'attends pas. C'est-à-dire que je pense que c'est un truc sur la vie moderne. Quoi. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui nous. Une phrase, quelque chose qu'on entend, de l'accident, entre guillemets. Quoi. Et je pense que c'est aussi de ça dont il s'agit de se faire le chroniqueur. Quoi. D'où. Enfin, contenant ce sens-là, quoi. C'est-à-dire que ça traverse, ça passe quelque part. Quoi.
Oui, je veux m'emparer de l'appareil. Je vais m'asseoir quand même, je ne suis pas comme Solman.
Non, mais je pense que ce qui est intéressant, c'est de reprendre cet aveu d'être flou. Parce que même si l'intériorité n'existe
pas. Tu as mis la norme dans la figure. Parce que. J'ai un autre mot, je vais le remplacer.
Je vais...
Non, parce que.
Je vais le remplacer par un autre mot.
Non, mais parce que je pense que c'était un mot approprié, même s'il a été refusé. Je pense que c'est un mot juste en termes descriptifs, parce que le visage n'est pas juste. Je pense qu'il y a quand même un recto et un verso du visage. Même s'il n'y a pas une intériorité, il y a un verso. Et
malheureusement, Bernard doit partir.
Ah, mais ça, c'est une lâcheté.
J'ai une très bonne
expérience. Non.
C'est pas
chou. Non, je vous en prie. Il reste encore. Non, mais voilà, donc je pense que le visage a quand même un verso. Et même si, comme ça, on ne pourrait pas avouer une intériorité, il y a quand même une hantise du mythe de l'intériorité qui, je pense. Par rapport à laquelle on est toujours en proie. On est toujours en proie au mythe de l'intériorité, même si elle n'a jamais eu lieu.
Ça, je suis tout à fait d'accord. On ne peut pas ne pas fantasmer.
Et ça fait.
Qu'il y a derrière.
Bien sûr. Bien sûr. Ah, bah oui.
Exactement. Je pense que c'est dans ce territoire.
C'est bon, ça.
Et c'est dans ce territoire.
C'est l'érotisme, ça.
C'est dans ce territoire.
C'est l'imaginaire.
C'est l'érotisme.
On découvre l'imaginaire, du coup. Voilà. Non, mais. Mais je pense que c'est dans ce territoire qui est établi par l'ambiguïté du mythe et du fantasme et ce qui est matériellement plausible que des œuvres comme les vôtres, comme les tiennes, peuvent s'inscrire. Tout en avouant qu'on refictionnalise peut-être une fiction, qu'il n'y a peut-être rien derrière, qu'il n'y a rien derrière le masque, pour le dire comme Nietzsche, mais il y a quand même le masque, et le masque signifie. Donc,
le masque signifie, ça c'est sûr par contre. Ça c'est effectivement, ce serait naïf de penser que le masque ne signifie pas, le masque signifie presque tout. Quoi. Effectivement, toi tu dis non, il ne signifie pas presque tout, il y a aussi cette dimension de fantasme.
Pierre, je crois que Bernard voulait...
Ah pardon.
C'est là qu'elle est présente, il y a que ça donne quoi.
Moi j'appelle ça le plan de consistance, ça c'est pas un mot très original, mais je pense que quand un... dispositif comme ça fonctionne, de toute façon, il projette. Alors ça, c'est du fantasme. J'appelle ça aussi de la mystagogie. ce qui a été très mal compris d'ailleurs, je crois, par certains artistes. Parce que dire que c'est de la mystagogie, pour moi, c'est pas du tout une dévalorisation. C'est de poser que, pour moi, l'art, pas simplement l'art d'ailleurs, toute la vie de l'esprit, doit rendre compte du fait qu'il y a du mystagogique. Et qu'il y a toujours du mystagogique qui ressurgit. Même quand on dit, par exemple, si on dit aux échecs, il n'y a que les pièces. Là, il y a combien, 32 pièces ou, ouais, c'est ça, hein, bon. Et ben oui, mais sauf qu'il y a autre chose. Il y a cette partie. Bon. Et c'est ça qui est évidemment le... Alors, après, on aura tendance... Moi, j'ai essayé d'expliquer la dialectique de Platon avec le jeu d'échecs. J'ai écrit un texte sur les dialogues de Platon comme partie d'échecs. Et on a évidemment tendance à dire c'est dans la tête de Kasparov qu'il y a une stratégie. Mais c'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. C'est pas dans la tête de Kasparov. C'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est dans tout un circuit dont la tête de Kasparov fait partie, bien sûr. Je suis vraiment désolé, je suis obligé de filer. Non, voilà. Désolé, hein.
À bientôt. Je vais écouter.
D'autres questions? Non, mais je voulais juste dire un tout petit truc.
Oui.
Il y a aussi cette dimension d'être distrait, parce que je voulais en parler à la fin, mais je parle de distraction par rapport à ce mot de flou. Peut-être qu'il faut que je remplace le mot flou par le mot distrait. Je crois que j'ai envie d'abord d'être distrait au monde, c'est-à-dire que je crois que j'ai envie que ça passe aussi dans le comme un mode non pas comme un problème, mais comme une dimension active. Donc effectivement de regarder quelque chose et puis du coin de l'œil de regarder autre chose et de s'apercevoir que finalement elles sont peut-être connectées et qu'une autre chose, etc. Et de continuer, c'est comme effectivement il y a quelque chose qui avance. Et donc, il continue c'est comme quelque chose qui se, une pelote de laine qui s'ouvrirait, qui continuerait sans fin à se déplier. Et finalement, là, il faut bien à faire choix. On ne peut pas rester à la croisée du chemin, entre la voine et l'eau. Mais en même temps, c'est quelque part une position qui m'intéresse de survoler ça et de pouvoir toujours être au carrefour. C'est comme si j'étais au carrefour, que je survolais le carrefour. Voilà, je suis autour du carrefour. À côté de l'événement, autour de l'événement. Parce que, par distraction volontaire, on va dire. Alors ça peut-être, ça produit après, on se demande où est le choix, où s'arrête la décision. Et peut-être que ça, justement, c'est quelque chose que j'ai pas, jusqu'à un certain point, évidemment, et que je me refuse de prendre comme position. Voilà. Et c'est pas non plus une sorte de... Il n'y a pas une morale derrière qui dirait « Oui, mais moi, je refuse l'autorité, voilà. » Non, je peux assumer une singularité de cette position. C'est pas... Voilà. C'est la venue sur hippie, on va dire.
Lambert Dousson. En fait, moi, j'avais une question très simple, parce que j'ai beaucoup de mal, en fait, à comprendre ce qui se dit depuis le début de la séance. À un moment, vous dites que vous trouvez votre singularité dans le dialogue avec les autres, et je voulais juste savoir, c'était qui les autres ?
Oui. Les autres, en général, effectivement, principalement, avec... Chez les autres, j'aurais peut-être dû dire. Et ces autres, ils sont autant une lecture que d'un livre, d'un philosophe, qu'un ami, qu'un film, qu'une architecture. Voilà. Donc les autres au sens très 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 large, oui. Chez les autres, c'est pas... Oui, après évidemment, j'ai des sympathies plus ou moins, voilà, mais bon, comme tout le monde. Mais cette porosité, cette singularité, même cette sympathie ou pas sympathie d'ailleurs, j'ai tort de dire ça. Le singulier se construit sur même des formes de conflits. Voilà, ça va de ma sœur à mon ami. Voilà, c'est pour eux, c'est pour eux. C'est pas spécifique, c'est pas les autres, c'est pas le corporatiste comme
c'est pas les autres professionnels, quoi.
Alors, est-ce... Ah.
Bonjour, Vincent Deslandres. Moi, quand j'ai vu l'œuvre à Beaubourg, j'ai eu l'impression que j'étais face peut-être à un moment de l'œuvre ou à un bout de l'œuvre, mais peut-être pas à l'œuvre tout entière conçue dans un sens classique. Et vous avez dit tout à l'heure que c'était peut-être un document sur ce qui s'était passé précédemment. Et est-ce que vous pouvez, de manière vraiment factuelle, décrire ce qui s'est passé dans la performance ou la représentation à Harvard ?
Non, là, l'idée était de faire donc cette représentation, donc j'ai construit ce théâtre, aussi physiquement ce petit théâtre, et j'ai fait une représentation de marionnettes que vous avez vu, qu'on voit.
C'est le même théâtre qu'on voit dans le film que celui dans lequel il y avait des vrais gens ? Parce que là, il y a des silhouettes de spectateurs.
Oui, oui, ça a été fait deux fois.
Oui, c'est ce que je veux dire.
Ça a été fait deux fois simplement, j'ai fait une représentation à vide. Et cette représentation à vide, elle m'a permis d'amener, simplement pour des raisons techniques d'enregistrement, de m'amener ma caméra comme dans la scène. Donc non plus pour un théâtre filmé à distance, mais un théâtre filmé de l'intérieur comme une scène de film où il y a un champ contre champ. Hein, voilà, pour être plus dans l'histoire, pour commencer à l'intérieur même de cette représentation. Et puis après, donc voilà, ça a été fait deux fois. Mais le jour de l'ouverture de cette exposition, la pièce se jouait, cette marionnette se jouait. Et elle est aussi filmée. Voilà, bon, ça s'est produit. Donc c'est vrai que c'est une sorte de document, en partie, mis en scène.
Et l'espace, il est grand comment, l'espace du théâtre ?
Il est grand comme ici.
Comme ici ?
Comme les tables, comme la table. Il est peut-être même un tout petit peu moins large que la table, et un tout petit peu plus profond. Du mur, je crois. Donc il y a une sorte de... Là, il y a le proscenium. Hein. Les gens sont derrière. Le public aussi, évidemment, qui ne rentre pas dans ce petit théâtre, voit les marionnettistes, voit... Voilà. Ils peuvent aussi rentrer dans l'espace d'exposition, parce qu'il y avait un espace d'exposition dans ce bâtiment, et dans lequel ils voient le film. Voilà, un fragment de ce film. Donc c'est vrai qu'effectivement, c'est un document, ouais. Sauf que j'essaye effectivement que ce document, alors ça après c'est une autre longue discussion, hein, mais j'essaie de mettre en scène ce document, j'essaie d'éviter l'enregistrement objectif, je pose ma caméra et j'appuie sur le bouton et j'attends que la représentation soit terminée, je le mets en scène, je mets en scène ce document, comme d'ailleurs tout documentaire, je ne sais pas pourquoi je dis ça d'ailleurs, tout documentaire est mis en scène.
Oui, il l'assume ou pas.
Il l'assume voilà. Ou pas, une sorte de forme d'objectivité ou de mise en scène. Mm. En général, il
évite.
Il évite. Il évite. Il y a une position morale qui va avec.
Mm. Le documentaire, c'est un peu ce qu'il prétend de ne pas avoir envie de revenir à la question de départ. Le documentaire académique.
Oui, sauf qu'on sait que Flaherty, la scène,
les mecs, c'est plus la position des grands documentaristes.
Que Wiseman, peut-être Wiseman. Ah,
Wiseman, il l'assume complètement. Voilà. Je pense que Doherty l'assumait aussi.
Ouais,
c'est plutôt
le
documentaire télévisé qui
ouais.
Fait tant à l'anonymat.
Et évidemment.
Oui, c'est plutôt l'idéologie du documentaire. Voilà, je crois.
Hein. Et le reportage.
Et la réalisatrice, voilà.
Voilà, évidemment. Non, moi, je l'ai mis en scène.
Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce terrain où on essaie d'avancer un tout petit peu ? Peut-être. Hein ? Vous êtes d'accord ? Donc je pense qu'on pourrait avancer sur la seconde question, qui était cette question de l'objectivité du médium. Et le fait que, oui, ce qui me semblait, c'est qu'à chaque fois, vous prenez le risque de vous avancer au cœur de dispositifs très lourds de production, comme le cinéma, hein, ou comme dans Antarctica, de monter une expédition, un orchestre, enfin, bon, etc. Central Park, hein, Manhattan, enfin, tout, quoi. C'est, on peut dire que c'est vraiment tout. Et au fond, comment... voilà, ma question, c'était, au fond, comment maintenir une rigueur de la pratique lorsqu'on se met au cœur du bunker.
Non, je comprends bien. En fait, la rigueur, je comprends, mais peut-être que la question faudrait peut-être aussi la reprogrammer.
Oui, on va la reprogrammer.
Parce que je ne suis pas sûr que la... Évidemment, c'est toujours... Quand on voit les moyens et on se dit... Voilà, terrain plus gros, donc force plus faible. Il y a une sorte de... Comme ça, de sorte de... On prend du terrain et donc on perd sa force. Mmh. Donc quelque part, il y a dans cette question une sorte de chose de rigueur qui veut dire force, précision,
ouais, tout à fait,
du travail.
Tout à fait.
Comment, en jouant à ses moyens, on maintient.
Mmh. Absolument.
Bon, c'est évidemment, il y a une dimension économique, tout processus de travail qui est évidemment lourd. Mmh. Mais bon, il y a des exemples de ça. Hein. Tiens, il y a un mec qui a fait Beaubourg. Ils ont dû. Voilà. Il y a Erase de Kooning, mais il y a aussi Beaubourg. Donc bon, c'est juste une question de pratique.
Oui, tout à fait. Hein, c'est ma question d'ailleurs. C'est ma question.
Donc ouais, comment on maintient la rigueur de cette pratique à cette échelle? D'accord. Mais moi j'avais compris.
Oui, tout à fait. Tout à fait.
À cette échelle.
À cette échelle.
À cette échelle. Pardon, je n'avais donc pas bien compris. Mm, mm. Eh bien, c'est pas facile de faire effectivement.
Voilà.
C'est pas facile pour des questions qui sont presque extérieures à ma volonté de les faire exister. Elles sont liées à évidemment des questions de marché, des règles du jeu de l'art, de ce que le public ou ceux qui le et le public ou ceux qui le financent attendent de. Voilà. Quelle est l'attente? Qu'est-ce qu'on attend de l'art? Qu'est-ce qu'il doit être? Donc évidemment, tout ça en cascade produit des difficultés de production dès que ça. Et effectivement, à un moment donné, je peux aussi très bien me demander quelle est ma position, si je suis à la bonne position, si je ne dois pas d'un côté sauter du côté évidemment du cinéma. Ou si je dois revenir à une pratique plus docile, on va dire, pas plus docile, parce que c'est pas ou le côté de cinéma, ou
oui,
pas plus docile. Alors, en tout cas, économiquement plus gentil, on va dire.
Oui.
C'est vrai que c'est une position que et surtout en ce moment, et depuis que j'ai fait ce film en Antarctique, je me suis violemment posée.
Peut-être que vous pouvez rappeler cette pièce, parce que je ne suis pas sûre que tout le monde voit ce que c'est que cette pièce qui est importante, si on veut parler de ça.
Oh, bah, décrire, je vais juste en
prendre oui, on parlera
juste en deux mots. Alors, oui, voilà, j'ai décidé de faire une. C'est en deux mots, je ne vais pas y arriver. Mais il s'agissait encore une fois d'abord de partager une expérience collective, et cette expérience après était chacun pouvait en faire l'interprétation. Il y avait cette idée d'un ailleurs, de produire un ailleurs, en tous les cas se dire qu'il était nécessaire d'un ailleurs, qu'il y ait un ailleurs. Et là, il s'est trouvé que c'était une île en Antarctique, parce que la glace évidemment, il y a toute une île. Après je joue, évidemment j'instrumentalise le présent et cette bête, etc. Donc il y a un moment donné 17 personnes, je ne sais plus, entre l'équipage et certains artistes, j'ai pris un bateau, j'ai loué un bateau et je suis allé un mois en expédition en Antarctique où j'ai essayé de découvrir, de trouver cette île, cet ailleurs. Voilà, donc j'ai filmé ce mouvement vers cet ailleurs. Et à la suite de ça, à Central Park, j'ai fait une sorte de, je ne sais pas comment on peut appeler ça, c'est une forme un peu hybride, malheureusement, c'était un peu... Mais en gros, ce que, dans tous les cas, je voulais faire, c'était une sorte de, à l'origine, une sorte de musical opéra, donc il y a un orchestre, après, une symphonique, 70 personnes, et il y a un événement public à Central Park, sur la patinoire de Central Park, donc là, la radio annonce qu'il va y avoir quelque chose, les gens viennent et voient effectivement un événement qui se déroule maintenant, là, et pendant qu'il se déroule, je le filme. Comme d'ailleurs en Antarctique, pendant qu'il se déroule, je le filme. Donc il y a un moment donné, juste, et il y a une sorte d'équivalence, en tous les cas pour moi, d'équivalence entre d'expérience, ce n'est pas une représentation, mais c'est plutôt une équivalence d'expérience, entre ce qui s'est produit vers cet ailleurs et ce qui se produit ici. Ce n'est pas un reportage, un rapportage, ce n'est pas un déplacement. Là, on peut parler de ces galènes et du divers, de rapporter, de ramener, etc., etc. Tout le truc du documentaire est mon problème, justement, avec cette dimension du documentaire. Voilà, j'ai écrit ce truc-là. Et effectivement, du coup, évidemment, économique, en termes de production, c'est énorme, évidemment. Mais après, c'est une sorte de volonté. Après, c'est pas une sorte de volonté, parce que.
Mais
c'est difficile à décrire parce que...
La question aussi, c'est est-ce qu'il y a un défi autour de ça? Est-ce que ça fait courir des risques à chaque fois?
Ça fait courir des risques énormes, énormes. Oui, non, c'est énorme, parce qu'effectivement, par rapport à l'énergie et l'économie engagée, il y a toujours le risque que ça ne marche pas. Et évidemment, elle n'est pas assez. En fait, le truc, c'est que ce qui est toujours un peu dangereux, je crois, avec ça... Donc là, je suis en train de réfléchir à ça. Donc c'est aussi un peu difficile pour moi d'en parler. Je suis vraiment sur ça. D'ailleurs, c'est vraiment des questions qui sont là aujourd'hui. J'ai une sorte de moment de... Voilà, je cherche entre sauter d'un côté ou sauter de l'autre. Ou peut-être des deux, d'ailleurs, c'est ça qui est encore une fois...
Il y a un truc qu'on remarque quand même assez bien par rapport à cette question de la justesse de la pratique, qui est une question très compliquée parce que finalement il n'y a que soi-même à un moment donné dans le travail où on sait que c'est juste ou pas. Je trouve qu'il y a une chose qui m'a frappé, que la différence de manière de filmer entre Streamside Day et puis le film qui est là-haut, elle est très nette. Et ça fait partie des choses qui sont justes à un moment donné quand on travaille sur des projets différents, qui fait qu'à un moment donné, on va filmer un peu comme ça, parce qu'on suit des enfants, machin, avec des cartons et tout. Et puis à un autre moment, ça va être des plans qui s'enchaînent. Et ça, c'est sur des choses comme ça, et c'est très difficile d'en parler. D'un truc comme ça.
C'est bien qu'une fois ça. Oui, effectivement, par exemple, sur le CD, la première fois qui est sur cette. Les clients, c'est
les bras. Oui, rappelle rapidement, quoi, juste.
Pareil, enfin, c'est aussi encore une sorte de. Enfin, en tous les cas, c'était une commande, j'en parle pas là, aussi. Mais effectivement, on me demande de faire quelque chose à la DIA à New York, et voilà, je ne veux pas faire quelque chose dans le bâtiment, et je regarde ce qu'a fait la DIA et aussi ce qu'a fait Smithson, et enfin, je suis très intéressé par Smithson, évidemment. Et je vois qu'il a fait beaucoup de choses à l'échelle du paysage, mais moi je décide de faire quelque chose à l'échelle d'un paysage temporel et social qui est une petite ville toute nouvelle qui est en train de se faire là, maintenant, pendant que je passe. Donc je décide de produire une coutume, voilà, une coutume pour un rituel qui va peut-être devenir une coutume et qui va peut-être se rejouer d'année en année. Donc j'introduis dans la boucle de l'année, qui est évidemment une loupe parfaite, quelque chose, une sorte d'événement qui va se reproduire. Donc il y a le film est en deux parties aussi. Il y a d'abord une première partie qui est une sorte de source d'où pourrait venir cette coutume, et qui n'est pas importée, c'est pas une illusion, c'est quelque chose qui est lié à la migration vers ce lieu, vers cette nouvelle résidence. Donc il y a cette petite source, on va dire, et après il y a sa représentation sous la forme d'une célébration. Donc il y a tous les gens du village qui célèbrent cette coutume qui n'aurait pas étrangère, puisque j'ai pris le minimum dénominateur commun. Et effectivement, la deuxième partie, puisque c'est une sorte de fête, comme un Noël, comme un machin, comme un Halloween, c'est filmé avec des caméras, fait à cette échelle. Voilà, la première partie est filmée, les plans sont plus cinématographiques. La deuxième, ça ressemble plutôt à un film de famille, quoi. C'est un film de famille, quoi. Ça, il a été tourné avec 5 caméras normales. Voilà, donc oui, il y a une échelle. Oui, c'est de trouver évidemment que le mode d'enregistrement, ou en tous les cas le format. C'est deux choses à distinguer, mais en tous les cas le format et son mode d'écriture soit adapté soit simplement adapté au projet et à ce que j'ai envie que ce projet dise.
Donc en fait, c'est notamment, on pourrait dire, garantir cette précision, il y a un moyen, c'est effectivement se mouvoir dans cette dimension, j'allais dire, de toute façon, qu'on ne peut pas contrôler, qui est la dimension, j'allais dire, d'un système de production cinématographique, par exemple, où ça demande des moyens économiques formidables, c'est-à-dire un moment où on perd le contrôle, je suppose. Mais par la variation... par des variations à l'intérieur de soi-même, ce qu'on fait, refabriquer, j'allais dire, une certaine justesse. C'est-à-dire que, par exemple, dans cette pièce, le fait d'avoir utilisé plusieurs modalités de filmage, tout d'un coup, ça rend le cadre général de production moins intéressant et moins puissant, parce qu'on fait intervenir de la différenciation dans ce qui n'est pas différencié. C'est-à-dire le cadre même, il n'est pas différencié. C'est Hollywood. Puis dedans, on fait la différenciation, et c'est là que finalement, il va y avoir la pratique véritablement. Est-ce que c'est ça?
Oui, oui, oui. Ouais. Non, mais j'ai du mal avec ce mot, avec Hollywood, parce que bon, c'est du cinéma, quoi.
Oui, oui, non, non. Pour moi, c'est, Hollywood, c'est pas une critique. C'est, hein,
non, 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 non. C'est, ou même, c'est même pas du cinéma. Hein, ou c'est même pas du cinéma, je devrais dire. C'est juste un mode d'enregistrement, film.
Oui, non, mais pour moi, il n'y a aucune espèce de négativité dans Hollywood. Je dis, c'est Hollywood, moi je vois ça comme. Et c'est
oui,
comme ça.
C'est lourd.
Voilà, c'est un peu ça. Oui, mais c'est le cinéma, quoi. C'est le cinéma au sens vrai du terme, quoi. C'est pas le cinéma au sens un peu maniériste, chichiteux, hein, artiste, j'allais dire. Hein.
Pas, si je... Ouais, tous ces trucs, les voilà. Caméras noires et blanches.
Voilà,
et
ça,
est-ce que la question aussi, c'est pas simplement le mode de production qui place Pierre, en l'occurrence, dans une plus ou moins grande dépendance aux autres? Parce que c'est ça.
Non, c'est-à-dire
dès qu'on arrive à des modes
on fait
de
seul ou on fait avec d'autres. Oui, c'est-à-dire que là, ça devient lourd quand, évidemment, on doit engager... 50 personnes, 100 personnes, voilà, ça devient évidemment plus difficile. Mais après, effectivement, c'est des échelles. Après, il y a des artistes qui trouvent des économies. Mathieu Barnet trouve une économie avec ses objets, avec ses photos. Alors, des fois, ça marche bien, des fois, ça marche un peu, ça devient merchandising. Bon, voilà, donc il y a une sorte de petite perte. Mais on peut dire qu'il y a tellement une dynamique, une volonté de faire ça qu'on peut presque lui pardonner ses mauvaises photos, quoi. Parce que finalement, elles servent vraiment uniquement à la production d'un nouveau, je sais pas quoi, d'un nouveau élément pour son film. Il a vraiment besoin de trouver. Sinon, ça n'existe simplement pas. Donc, il trouve son économie. Elle est de temps en temps plus juste, de temps en temps un petit peu moins, mais au moins, en tous les cas, ça le permet. Et je dis ça sans le jugement sur son travail. Toi. J'ai même pas à rentrer dans cette. Voilà, mais il a trouvé. Voilà, il y a ce genre de choses. S'il n'y a pas ça. À côté, ça produit évidemment, c'est plus complexe, il faut aller chercher ailleurs. Mais chercher ailleurs, c'est pas parce que, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas parce qu'il faut aller chercher ailleurs une économie, 10 millions d'euros pour faire un film, ou 5 millions d'euros pour faire un film, que parce qu'on sort et qu'on va. Alors évidemment, l'économie a tendance à plier évidemment, forcément, une certaine liberté, mais c'est pas parce qu'on va chercher ailleurs qu'on prend aussi la casquette. Non. Du champ dans lequel on va chercher. Il ne s'agit pas de dire, tiens, je vais chercher l'argent, tiens, j'ai trouvé de l'argent à travers un producteur de cinéma, et du coup, je deviens cinéaste. Ça ne m'intéresse pas, cette dimension-là. Ça m'intéresse de maintenir cette position. On parlait d'exposition, en fait, quand on parle de Streamside Day, de Harvard, où je ne me souviens jamais les noms de mes pièces, quoi, This is not time for dreaming, a journey that wasn't. Ce ne sont que des formes d'exposition pour moi. Et finalement, enfin voilà. Aller vers quelque chose qui serait plus lourd serait juste que le groupe de continuer cette pratique.
Tout à fait. Il me semble que quand même le mot pour moi qui m'intéresse, c'est le mot de format.
Ouais.
C'est qu'en fait on crée des formats et c'est ça qui va maintenir la rigueur de la chose.
Non, après, à partir du moment où c'est plus tellement parce que format, c'est, on n'est pas dans forme là.
On est dans format.
À partir du moment où il y a une sorte de quelque chose qu'on arrive à comprendre une chaîne, après, ça prend, peu importe la forme que ça prend.
Exactement.
Et on peut effectivement faire ça, et c'est effectivement plus, juste, un petit peu plus lourd, ou je peux faire RIZ de Koenig, quoi.
Voilà.
Ça revient au même.
Est-ce qu'il y a des questions sur ce point?
Un petit peu plus obscur, ce point.
Moi, j'aurais
Manuel.
Quelque chose à dire par rapport à cette question autobiographique, parce que est-ce que ton rapport à précisément à Hollywood comme format, qui est un format qui est dans le cinéma français, je ne sais pas, Arsène Lupin, ce genre de trucs, ils sont vraiment hollywoodiens. Est-ce que le rapport a évolué ou a changé? J'imagine que oui, mais comment entre le temps du remake et aujourd'hui où tu utilises le format cinématographique de manière beaucoup plus plus intégrée, pour ainsi dire, où tu faufiles à l'intérieur du format cinéma.
Oui, tu veux dire que peut-être à un moment donné, quand j'ai fait remake, je prends ma petite caméra, je fais quelque chose, c'est plutôt un geste machin, et là tu veux dire que là je me suis docilisé.
Ça peut se
dire
comme ça ou non? Peut-être que tu étais déjà en train de penser les mêmes questions et que tu étais déjà en train de les envisager, mais tu ne pouvais pas.
Juste, c'est une sorte de moyen.
5 millions d'euros.
Je vois ce que tu veux dire. Ta question, est-ce que le changement vient d'avoir plus de moyens, finalement, de rien, ou est-ce qu'à l'époque déjà je désire?
Ouais, voilà. Est-ce que c'était plutôt gestuel avant et maintenant c'est plus. Ou est-ce que vraiment il y a eu quelque chose comme un développement à partir de ces mêmes sources?
Non, en tous les cas, remake, c'est vrai que c'est la première fois que je trouve. prenait une idée du jour au lendemain de faire un long métrage et que ça allait me prendre un week-end. Donc forcément, bon, c'est à l'échelle de l'enjeu, quoi. Parce que ça n'avait pas d'autre intérêt que ça. Et ça n'avait rien de faire mieux, finalement, d'une certaine manière. C'était un film de encore une fois, un home movie, c'est un film de famille. C'est un film de famille. Il fallait que ça soit fait comme ça, même si, effectivement, c'est extrêmement, extrêmement dur de le regarder, quoi. Désagréable et pénible. Mais justement, il fallait que cette matrice soit pauvre. Puisqu'elle renvoyait aussi à quelque chose qui n'était pas pauvre, mais qui était assez subjectif, qui était « j'ai vu ce film, on l'a tous en tête », ce qui est Fenêtre sur cour. Parce que justement, Fenêtre sur cour, c'est un ensemble de possibles. Mm. Là, c'est un rapport de couple entre une personne et un autre. En fait, c'est des possibles rapports. Tac, et quelqu'un est assis, il est bloqué, et il voit ça. Donc, évidemment, je joue de ça. Tout le monde se souvient de ce film. Tout le monde. Beaucoup de gens se souviennent de ce film. Donc, moi, ce qui m'intéressait, c'est une sorte d'équivalence entre cette réception un peu fragilisée, subjectivisée, et évidemment l'acteur qui joue pas bien, ce film n'est pas bien. Donc il fallait que ce soit poreux, pas dominant, il faut qu'il y ait une équivalence. Voilà. Mais
ta perception du
médium. J'essaie quand même de répondre à ta question par rapport à ça. Je pense que là, pour le coup, c'était à l'échelle et que j'avais pas de désir d'autre chose que de le faire comme je l'ai fait, je crois. Mieux fait, peut-être, ça aurait été bien, mais ça, c'était pas... Par contre, quand tu parles aujourd'hui de... Tu dis, oui, bah, aujourd'hui, tu as peut-être plus de moyens, tu as peut-être une sorte d'intégration dans les modes de faire d'un cinéma un peu dominant. Oui, et ça aussi, ça m'intéresse aujourd'hui. Et je crois pas qu'en fait, j'ai perdu quelque chose d'avant. Je crois que peut-être justement avant, il y avait quelque chose qui était plus littéral, qui était peut-être une forme plus intransigeante par rapport à cet ensemble. Mais en même temps, il était en dehors et se positionnait comme une forme un peu critique. Et aujourd'hui, ça ne fait pas un mode qui m'intéresse. Je pense pas que ce soit un mode qui soit viable, qui soit complètement viable. Je pense que ça passe par une forme de je crois qu'il faut jouer avec ces formats à un moment donné dominants, à l'échelle. Voilà, il faut jouer à l'échelle. Je pense qu'aujourd'hui, il faut porter l'exposition à l'échelle de ces formats dominants. Comme si tu t'ouvrais au monde et que tu disais, tiens, je vais faire quelque chose. Tu ne dis pas, je suis un artiste. Ah, qu'est-ce qu'on fait quand on est artiste? On fait des peintures, des sculptures, on fait des... Ah oui, on a... Ah, oui, Non, c'est avant ça, avant d'être artiste, avant, juste être au monde, maintenant, au présent, et faire, donner forme à ce présent. Voilà, c'est ça, ça m'intéresse beaucoup plus que de me dire, je suis un artiste, voilà. Donc peut-être qu'aujourd'hui j'ai envie de prendre ces formats. Mais c'est, voilà. Après c'est comment on peut les plier, comment on peut leur faire dire autre chose, comment, voilà. sans perdre un projet, quoi.
Et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que pour moi, tu as travaillé avec des règles du jeu pendant un certain temps, et maintenant ces règles du jeu, tu ne les donnes pas de manière aussi précise qu'avant, et c'est un risque que tu prends et qui me paraît important et intéressant. C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur la distance qui s'est modifiée.
Juste un commentaire, parce que comme ça, extérieurement, à lire les choses, les écrits qui sortent, par exemple la revue Trouble numéro 6 sur la question de la critique, ces histoires de règles du jeu dont les gens parlent, cette manière que tu as de parler, de dire oui, mais je ne montre pas vraiment forcément, enfin, je garde une distance, je montre des choses. Finalement, c'est un jeu, pour revenir sur la question des artifices, c'est un jeu qui est très fin, qui marche extrêmement bien, qui est très attirant, parce qu'on se demande toujours ce qu'on doit comprendre, ce qu'on doit regarder, on n'est jamais vraiment sûr de sa perception en tant que spectateur. Et ça, c'est extrêmement habile, ça, hein, cette espèce de façon de désarçonner le spectateur comme ça. C'est très jouissif pour un spectateur, d'ailleurs. Mais, en même temps, après, il y a un moment donné où même quand tu dis, bah oui, mais la critique, non, ça marche pas, il faut faire la célébration, on se dit, mais ouais, peut-être il pense pas du tout ce qu'il croit, enfin ce qu'il dit, ou il y croit pas, parce qu'en fait, en même temps, il y a quand même une dimension critique dans les films qui reste. Donc, non, mais c'est.
Mais la célébration n'est pas l'empathie.
Non, non, mais je comprends très bien ce que tu veux dire. Oui, oui, t'as raison. C'est pas l'avélissement.
Par contre.
C'est pas l'avélissement cynique en disant. Embrassons le monde.
Mais par contre, prendre le risque de dire que les pièces et que l'art en ce moment n'est plus du tout à dimension critique, là, d'un coup, c'est pas comme de dire. Alors, c'est peut-être un peu critique, mais c'est peut-être aussi. Un peu comme si, ou un peu comme ça. Enfin, c'est, d'un coup, là, il y a une position qui est prise, qui est extrêmement claire, qui est mise par écrit, et c'est assez impressionnant, parce qu'elle n'est pas,
ben, je sais pas
invisible, en fait, extérieurement. Tu vois, c'est, on ne comprend pas pourquoi c'est énoncé comme ça.
Oui,
il y a
besoin
d'énoncer comme ça.
L'histoire du célébratif. C'est... On a parlé du célébratif depuis le départ, mais en faisant référence à un texte de Dorothea von Entelmann, qui ne prend pas le célébratif dans n'importe quel sens.
Non, il y a plusieurs. Il y a plusieurs.